voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle le thème de notre grand rendez-vous ce soir. Nous allons consacrer ce débat à la présidentielle qui se prépare au Bénin. Elle est prévue le 11 avril prochain. Entre autres points d'achoppement, la possible absence de l'opposition en cause, le nouveau code électoral plus que contesté. Mais d'abord, évoquons cet autre sujet politique et toujours à propos d'élection présidentielle. C'est celle du Ghana qui, elle, est prévue lundi prochain, 7 décembre. Analysons ce scrutin avec notre invité qu'on écoute tout de suite.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Levina Adai Mensa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice exécutive adjointe de WANEP, c'est le West Africa Network for Peace Building à Accra, au Ghana. 12 candidats vont solliciter les suffrages des électeurs lors de la présidentielle de lundi prochain. Le président sortant, Nana Akufo-Addo du NPP, au pouvoir, est candidat, de même que son principal adversaire, l'ex-chef de l'État John Dramani Mahama, pour le compte du principal parti de l'opposition NDC. Cette fois encore, cela va-t-il se jouer entre les deux hommes, comme en 2016, ou peut-il y avoir des surprises, madame?
Non, si on parle des élections au niveau du Ghana, pour le moment, il y a les deux partis, donc les partis du président sortant et puis les partis de l'ex-président. C'est les deux partis qui dominent l'espace électoral du Ghana. Il y en a d'autres partis, mais bon, pour le moment, ils ne sont pas assez forts.
Présidentielle en 2016, il y avait 4 candidats en lice. Cette fois, il y en a 12. Qu'est-ce qui explique l'augmentation du nombre de candidatures?
Il y a différentes explications qui ont été données. Il y a différents, il y a aussi beaucoup de dynamiques qui sont en jeu. Donc, en fait, de manière générale, on a un phénomène qu'on voit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on pourrait même dire au niveau d'Afrique. Qu'il y a au sein des partis politiques, il y a une certaine division intra-parti qui fait que, bon, certains individus qui ne sont pas contents avec un ou deux autres, des choses dans leur parti décident d'aller de s'écarter et de créer une partie des partis. Donc, on est en train de voir au niveau de l'Afrique, de manière générale, une prolifération des partis politiques. Ce qui démontre pour nous en tant qu'analyste des conflits, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de manque de confiance, manque de ententes entre les acteurs politiques. Voilà un peu ce qui explique l'état du Ghana, par exemple, pourquoi on se retrouve avec beaucoup de partis, mais aussi à part ça, effectivement, il y a les deux partis, comme je disais tout à l'heure, qui ont dominé pendant très longtemps. Et les gens commencent à se poser des questions.
Et les électeurs souhaitent peut-être donner une chance au nouveau visage.
Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que pour le moment, les électeurs ne voient pas vraiment les options qui existent. Parce que les autres, là, ne sont pas encore assez forts. Il y en avait un troisième, hein, les partis CPP. Qui a existé depuis le temps du premier président du Ghana. Mais bon, jusqu'à là, ils ont aussi eu quelques défis, évidemment aussi. On a vu avec l'évolution de la démocratie en Afrique en général que les élections deviennent de plus en plus
Madame, l'autre observation, c'est que parmi les 12 candidats, il y a 3 femmes et le parti d'opposition a choisi comme colistière une femme, Jen Nana Opoku Adjiman. Pour vous, c'est une avancée?
Oui, bien sûr, ça c'est une avancée. Ça c'est au niveau présidentiel, c'est la première fois qu'on voit 3 femmes. C'est qu'il y a une évolution, mais en fait, la question qui se pose actuellement, c'est le fait que, bon, c'est bien qu'on a des femmes qui se présentent, hein, mais franchement, est-ce qu'au niveau un peu plus bas, pas à ce niveau du président, en fait, tous les processus qui amènent à l'élection d'un président, est-ce que les processus sont assez genrés?
Donc vous estimez que les appareils politiques ne font pas grand-chose pour promouvoir les candidatures féminines?
Voilà, en fait, le problème, c'est au sein des partis même. C'est là où on doit faire les réformes.
Mais est-ce que l'électorat suit aussi? Quel sera le score de ces femmes?
On a eu une évolution de la situation où les gens sont beaucoup plus sensibilisés pour avoir une femme à la tête. Mais le problème, c'est au niveau des priorités de la population qui dit, voilà, bon, c'est vrai d'avoir une femme, mais pour eux, ce qui compte le plus, c'est avoir quelqu'un qui peut avoir une influence sur leur niveau de vie. Hein. C'est ça qui est devenu la priorité. Et c'est vrai, avoir une femme, hein, c'est important, mais les gens sont en train de regarder aussi hein, à qui vraiment peut répondre à notre problème.
Certaines chancelleries ont envoyé des messages relativement alarmistes à leurs ressortissants. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des tensions pendant et après le scrutin?
La période préélectorale, hein, on a eu beaucoup de tensions qui ont existé depuis. Effectivement, si on veut faire une comparaison avec 2016, on a vu que cette année, bon, cette cycle électoral, il y avait beaucoup plus d'enjeux hein, pour les deux candidats principaux. Mais d'après notre analyse, on a vu que, bon, bien que les tensions existent avec COVID, on a l'impression hein, que la tension a baissé un peu, mais aussi il y a l'apathie de la population qui se dit, mais bon, avec tout ce qui se passe, ça, c'est pour avancer. Hein.
Levina Adai Mensa, merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.
Directrice exécutive adjointe de WANEP, West Africa Network for Peace Building, à Accra, au Ghana.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et au menu ce soir, les préparatifs de la présidentielle de l'année prochaine au Bénin avec nos invités Ralmek Gandao, président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin en ligne de Cotonou. Également à Cotonou, Orden Ala Datin, député et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, membre de la majorité présidentielle, et Donklam Abalo, porte-parole de l'USL, Union Sociale Libéral de l'opposant Sébastien Adjavon. Le président Patrice Talon va-t-il briguer un second mandat à la tête du Bénin ou va-t-il respecter sa promesse de ne faire qu'un seul? Le mois dernier, il a entamé une tournée dans le pays et a tenu dans certaines localités comme Tiaoro, commune d'origine de son prédécesseur Thomas Boniayi, des propos inhabituellement mielleux de la vie des Béninois, ce qui fait dire à certains d'entre eux que le président sortant sera sans doute candidat. Ceux qui le disent, voient-ils juste Monsieur Ala Datin, vous m'entendez? Non, pas encore, Monsieur Ala Datin qui n'est pas encore en ligne. Est-ce que vous êtes en ligne, Monsieur Gandao? Monsieur Gandao?
Oui, je vous entends.
Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et quel est votre sentiment après la tournée menée par le président Talon sur toutes les communes du pays? Est-ce que vous pensez qu'il va se présenter pour un second mandat?
Allô?
Oui, monsieur, vous m'entendez?
Oui.
Je demandais, est-ce que vous avez le sentiment que le président Patrice Talon, qui avait promis de ne faire qu'un seul mandat, va tenir sa promesse ou au contraire va-t-il solliciter pour la seconde fois les suffrages des Béninois?
J'avoue que, d'abord, je vous remercie pour l'émission et l'intérêt porté à ma personne et la qualité à terme de la société civile. Je crois que pour l'heure, pour nos citoyens, on n'est pas tellement préoccupé par la moralité ou bien la parole du chef. Parce qu'on est en République, et en République, c'est les lois qui prévalent. Et par rapport aux lois en vigueur, il y a loisible de se présenter, et comme il y a aussi loisible de ne pas se présenter. Et la question de la promesse, ça fait appel à sa morale. Et donc, c'est pas pour l'instant le sujet pour les citoyens.
Quel est le sujet donc pour les Béninois, si ce n'est la candidature ou non de Patrice Talon?
Le sujet important pour nous, ce n'est même pas un sujet lié à Patrice Talon. c'est un sujet lié à notre droit, à nos droits citoyens. Les citoyens béninois, depuis le 3 septembre 2020, à travers la société civile mobilisée dans son entièreté, autour de l'initiative Laissez-moi choisir, veulent choisir en 2021. Ils veulent avoir la possibilité de choisir. Il se fait qu'à la suite de mes réformes politiques, on s'est retrouvé dans un contexte où il nous sera difficile, nous, citoyens, de librement choisir en 2021.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'aurez pas la possibilité de choisir parce que l'offre politique... vous voulez parler de l'absence de l'opposition, d'une offre pluraliste?
On parlait beaucoup plus d'offres pluralistes. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie que des candidats portant dans la loi, je veux dire, dans la loi, parce que depuis l'intérim chef de l'État accordé à Jeune Afrique, et puis ça sorti dans le Nord ces derniers jours, il semble promettre vraiment qu'il y aura une concurrence hors de la majorité présidentielle, et donc que même certains partis politiques participeront au processus. Ça, c'est dans la bouche du chef de l'État. Mais dans la loi, nous n'avons aucune garantie d'une pluralité d'offres. Et dites-vous qu'en démocratie, la perspective d'une alternance est nécessaire. Elle est nécessaire pour qu'on valide le processus démocratique. Or, en l'état, nous n'avons aucune garantie, en l'état actuel des tests, et avec la liberté pour les parrains de faire ce qu'ils veulent, ce qui est normal par rapport à l'étude de la loi, nous n'avons aucune garantie.
Donc vous dites qu'il y a ce qu'a dit le président Talon lors de sa tournée en mi-novembre dernier, mais il y a cette autre réalité qui est celle que le nouveau code électoral a été adopté par l'Assemblée nationale et pour que les candidats de l'opposition puissent participer à l'élection, il faudrait forcément changer et revoir ce nouveau code électoral.
C'est parce qu'il y a problème. Le chef de l'État lui-même, déjà dans une Afrique, et là maintenant quand il sort, il dit oui, il donne l'assurance, il y aura concurrence, au-delà de la majorité, oui, tel parti vont compétir, oui, tout ça. Parce que justement, il est conscient que l'application des textes tels que rédigés et le contexte vicié qui a été créé par certains acteurs politiques de l'élection présidentielle depuis juillet dernier à une modification franchement pernicieuse de la loi en plein processus électoral, joué par les élections de proximité.
Merci.
C'est-à-dire le contexte et le texte créent une situation anxiogène.
Merci beaucoup.
Le contexte et le texte de la loi, article 132, dernier tiret, et le contexte créé par les acteurs politiques depuis 2019 à ce jour.
Merci beaucoup. Avec l'absence de l'opposition lors aux dernières législatives et quasiment pareil pour les élections municipales. Je ne sais pas si. Attendez, Monsieur Gandao, oui. On va essayer d'écouter les autres. Voilà, on me fait signe malheureusement qu'ils ne sont pas toujours en ligne. Donc, du coup, je vous laisse continuer. Dites-nous, qu'est-ce que vous vouliez nous expliquer en quelques mots, s'il vous plaît.
En quelques mots. Vous parlez d'opposition, vous parlez de moi, je vous parle en tant que citoyen. Jusque-là, on n'est pas encore dans le schéma d'opposition, ceci dit. Le schéma pour le citoyen, c'est quoi? On va dans des élections démocratiques, certainement des gens vont élaborer des projets de société contraires ou bien qui viennent en fait corriger les dysfonctionnements de gouvernance ayant couru ces dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, citoyens, nous voulons simplement que par le jeu démocratique, nous puissions avoir une pluralité de candidats.
Que le jeu soit ouvert et que toutes les entités politiques puissent être représentées.
Vous dites ?
Oui, que le jeu soit ouvert et que toutes les tendances politiques puissent y participer.
Que nous ayons une pluralité d'offres. Parce qu'au Bénin, les élections ne disent pas forcément présentées, ne disent pas qu'il faut des partis pour être candidat dans la Constitution. Un individu peut être candidat. Et donc, on n'est même pas dans la démarche de partis politiques d'opposants. Ce n'est pas ça. Nous espérons avoir une pluralité d'offres et faire le tri en 2021. C'est tout.
Merci beaucoup. On a écouté votre position.
L'application actuelle de la loi que ce juge de la loi ne donne aucune garantie. Donc il y a ce que le chef de l'État dit de sa bouche.
Mais de votre point de vue, Monsieur Gandao, de votre point de vue, que peut faire aujourd'hui le président Talon pour permettre cette pluralité-là que vous souhaitez?
Non, il a assez de leviers. Il a conduit des réformes politiques avec succès, parce que c'est pas mauvais dans les réformes du système partisan, c'est pas mauvais. Il y a eu assez de succès aussi. Et donc, il a eu du succès en manœuvrant, en commandant en chef tout d'un coup de la République pour avoir des résultats. Et donc, c'est qu'il souhaite une élection inclusive au Bénin en 2021. Il a assez de leviers.
Quels sont ces leviers d'après vous?
À la société civile. Dans le cadre du plaidoyer laissez-moi choisir en 2021, nous avions carrément souhaité en fait la suppression des dispositions liées au parrainage. Apparemment, il y a des positions, les positions sont réduites sur la question. Ils ne semblent pas vouloir aller à ça. Tant pis, tant mieux. Pourvu que, étant en République, à travers la loi, dans sa prévisibilité, c'est très important, dans sa prévisibilité, nous sachions maintenant comment est-ce que nous aurons la pluralité d'offres. Il faudrait que, de façon prévisible dans la loi, nous ayons la garantie de la pluralité d'offres. C'est tout. Donc, il a des leviers à son niveau, le chef de l'État, pour nous donner ça. C'est lui qui est au fond.
Donc, vous estimez qu'on peut garder...
Nous avions suggéré seulement la suppression qui était la solution à côté.
Dans la suppression du parrainage, mais vous pensez que... Monsieur, permettez-nous de vous poser la question, parce que c'est déjà assez difficile. On a un dialogue depuis tout à l'heure, parce que nous n'arrivons pas pour l'instant à voir Monsieur Donklam Abalo, qui sont au standard, mais on n'arrive pas à les transférer en ligne pour participer pour le maison. Pour l'instant, il s'agit donc de Monsieur Donklam Abalo, porte-parole de l'USL de Sébastien Adjavon, ainsi que le représentant de la majorité présidentielle ou député hors à la Datin, qu'on espère avoir dans quelques instants. Alors, pour revenir au levier dont vous parliez, M. Gandao, vous dites que, voilà, on peut abandonner la loi sur le parrainage, mais qu'en est-il de cette caution de 50 millions de francs CFA exigée aux candidats?
Vous savez, ça va vous paraître... je suis en train de vous expliquer, en fait, que nous avons connu assez de modifications par rapport au cadre légal électoral au Bénin et ces trois dernières années. Mais en tant que citoyen, la préoccupation, parce qu'en plaidoyer, il faut avoir des priorités. Nous sommes arrivés à un point où nos citoyens, tous les citoyens plus de 18 ans au Bénin, sont pratiquement placés sous curatelle. C'est-à-dire que c'est quand le collège des parrains aura décidé de ce que deux ou trois individus sont candidats que nous serons soumis à devoir choisir, peut-être parmi des offres minables. Voyez-vous. Donc, nous avons un problème sérieux, c'est qu'en tant que citoyen aujourd'hui au Bénin, vous n'avez pas la liberté de choix. La démocratie, c'est la pluralité de choix.
Merci.
Nous n'avons pas cette garantie-là.
Merci.
Et donc, quand on a un tel problème de citoyen, il y a des questions sur lesquelles on ne s'intéresse pas, parce que déjà, vous voyez, c'est la question voilà, de la caution, la question de la liste électorale. Allons-y, step by step. L'urgence aujourd'hui, c'est la garantie pour les citoyens de pouvoir choisir, c'est-à-dire
parmi une offre politique diversifiée. Merci beaucoup, Monsieur Gandao. On a suivi votre point de vue dans ce débat sur les préparatifs de la présidentielle en avril prochain au Bénin. On va marquer une pause et à tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous allons poursuivre notre débat sur les préparatifs de l'élection présidentielle qui est prévue le 11 avril prochain au Bénin avec cette double question. Le président Patrice Talon, qui avait promis de faire un seul mandat, va-t-il se représenter pour un second? Et aussi la question de l'absence de l'opposition à cette élection. Et nous avons nos invités, Donklam Abalo, porte-parole de l'USL, c'est le parti de l'opposant Sébastien Adjavon, que nous n'avons pas encore entendu. Nous l'avons entendu à l'instant et je ne sais pas s'il est en ligne. Monsieur Abalo, vous me recevez cette fois? Non, manifestement. Bon, on essaye de le rappeler. Pendant la pause, nous l'avons pourtant entendu. Nous avons également dans cette émission Ramel Gandao, qui est le président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin et membre de l'initiative Laissez-moi choisir, que nous avons longuement entendu. Et nous espérons aussi avoir le député de la majorité présidentielle, Orden Aladatin, pour participer à ce débat. Est-ce qu'il est là, M. Aladatin? Pas encore, une fois de plus. Décidément, encore. On va revenir à vous, représentant de la société civile, M. Gandao. Si, finalement, vos attentes ne se réalisaient pas, c'est-à-dire celle de voir le président Patrice Talon décider peut-être du retrait de ce système de parrainage, est-ce que vous pensez que l'opposition a les moyens aujourd'hui de pouvoir trouver d'autres solutions pour être présente à cette élection? Allô?
Vous voyez, il n'est pas possible pour nous citoyens d'entrevoir que le chef de l'État, si légitime qu'il soit, élu le 20 mars 2016, remette en cause le processus par lequel il est arrivé. C'est parce qu'il est conscient de ce que sont les élections présidentielles pour les Béninois. C'est parce qu'il est conscient de la particularité de son mandat qu'il a un langage différent à faire politique sur la question. Et à chaque fois, il nous rassure de ce que nous avons la priorité du choix.
Oui, vous avez dit que vous lui faites confiance. Oui, mais j'ai dit, si finalement, en fin de compte, il ne faisait pas joindre l'acte à la parole, il ne décidait pas de faire en ce qu'on puisse renoncer à ce parrainage qui bloque carrément l'opposition, est-ce que l'opposition a aujourd'hui d'autres moyens de pouvoir participer à ce scrutin?
En réalité, Tel que la question est formulée, c'est à croire en réalité que nous avons déjà une opposition qui a un programme tout fait et qui devrait accéder au pouvoir. Non, la question n'est pas là. Nous autres citoyens, nous voulons juste avoir la garantie d'une pluralité de choix. Le débat sur est-ce que l'opposition sera candidat, ça c'est des considérations politiques auxquelles nous ne se mêlons pas à la société civile.
Non, ma question n'était pas de savoir si l'opposition sera présente, c'était si l'opposition...
Pas de considérations politiques.
Permettez, M. Gandao, ma question était de savoir si l'opposition, en l'état actuel, a les moyens de participer à ce scrutin si jamais le président Patrice Talon ne faisait pas sauter l'aspect du parrainage qui empêche de fait l'opposition d'aller à cette élection puisqu'elle n'a pas d'élu en fait pour pouvoir le faire.
Vous voulez dire si un candidat, je préfère la formulation, vous voulez dire si un candidat ayant un programme alternatif à celui du chef de l'État s'il était candidat pourrait, c'est-à-dire votre candidature acceptée dans le contexte actuel. Si vous faites ça comme ça, moi je suis porteur, je peux répondre pour dire que non, parce que je sais pas, le jeu est presque verrouillé, il n'y a pas de prévisibilité de comment ça va se passer tel que le chef d'État le promet et tel que la loi est. Vous avez 96,25% des parrains qui sont du côté de la majorité et on est dans l'espoir que le parrainage serait neutre. Mais je vous ai dit que le contexte a suffisamment vicié tout au point où nous savons que le parrainage sera plus neutre.
Donc tout dépend de la volonté, d'après vous, du président Patrice Talon?
Tout dépend en fait de la concrétisation, c'est-à-dire en tête que sont en République, de sa volonté qu'il a déjà exprimée. Il a déjà promis que la compétition, la concurrence aura lieu hors de la majorité. Il a même précisé que certains acteurs peuvent participer au processus. Maintenant, il faut qu'au-delà de ce qu'il exprime, puisqu'on est en République, que nous ayons un modus operandi légal, rendant prévisible le processus qui s'annonce. Autrement, nous sommes dans l'imprévisibilité là, alors qu'on est en démocratie. Maintenant, je reviens à insister sur le fait que, quand vous parlez d'opposition, vous créez le flou dans ma tête, parce que le contexte du Bénin permet de comprendre qui est opposant et qui ne l'est pas.
Ah, et les Sébastien Adjavon ou l'ancien président Thomas Boni-Yayi,
s'il vous plaît, laissez-moi vous le dire, le cadre légal actuellement...
Monsieur Azalaï, ce ne sont pas des opposants?
Par exemple, vous ne me comprenez pas. Je vous dis, par exemple, nous sommes dans un contexte légal où il y a un parti politique qui se réclame de l'opposition.
Ça se dit partout que des partis politiques de l'opposition. Vous avez deux partis de l'opposition mais qui ne sont pas reconnus par la loi. Que voulez-vous que je vous dise par rapport à ça maintenant? Vous avez dit que c'est un capharnaüm dans lequel nous, la société civile, nous ne rentrons pas. Nous préférons plutôt faire le plaidoyer pour avoir au moins la liberté de choix en son temps.
D'accord. Et comment analysez-vous la tournée que le président Patrice Talon a menée dans les 54 communes du Bénin le mois dernier, avec cette étape de Tchaoro qui a beaucoup fait parler, au cours de laquelle il a souhaité la réconciliation avec son prédécesseur Thomas Boni Yayi. Certains disent que c'était une sorte de pré-campagne. Et vous vous dites que c'était une occasion pour lui de s'adresser directement aux populations et de reconquérir leur confiance, peut-être?
Je pense que, exerçant un mandat en cours, il est de son obligation de ne pas rester dans une gouvernance digitale depuis Cotonou, et d'aller vers les citoyens pour les écouter, pour vérifier si ce qu'il a confié aux agences de réaliser, tant dans le secteur de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et des consorts, si ces agences, si le mode de gestion de l'agence a porté des effets sur le terrain. Il était important pour lui d'aller sur le terrain, voir les limites de ces méthodes de gouvernance et écouter les citoyens. Si c'est ça l'exercice, mais c'est tant mieux. Merci. Maintenant, les considérations politiques autour, encore une fois, à la société civile, on n'est pas dedans. Parce que nous sommes préoccupés par des millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable.
Merci beaucoup.
Des millions de personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé de qualité, mais qui sont effectivement dans cette zone de centrion.
Merci, monsieur Gandao. Je vais devoir vous interrompre parce que nous avons monsieur Donklam Abalo, porte-parole de l'USL de Sébastien Adjavon en ligne. Monsieur Abalo, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir à vous, madame. Bonsoir et merci pour l'invitation.
Nous nous excusons. On a fait quasiment un peu plus de la moitié de l'émission sans vous et également sans votre ami de l'opposition, de la majorité présidentielle, monsieur Ayadata, qu'on espère avoir. Alors, nous débattions déjà avec le représentant de la société civile, Ralmek Gandao, de cette absence possible de l'opposition à la prochaine présidentielle, et il expliquait que le président Talon doit faire tout ce qui est à son possible, puisqu'il a d'ailleurs promis pour que le système de parrainage puisse peut-être disparaître pour permettre à l'opposition de participer à ce scrutin. Est-ce que c'est également votre espoir?
Vous savez que les promesses du président Talon n'engagent que ceux qui y croient, de toutes les façons, parce que il y a eu plusieurs promesses qui ont été déjà faites jusque-là, mais qui n'ont jamais été respectées. Donc, à partir de ce postulat-là, on peut douter de la volonté du président Patrice Talon de voir l'opposition réelle participer à l'élection présidentielle de 2021. Ce n'est pas au président de la République de venir promettre la participation de l'opposition à une élection. Ce sont les textes qui doivent faciliter la participation de l'opposition à une élection.
Et justement, à ce sujet, les textes, on le disait également, les textes ont déjà été votés. Ce nouveau code électoral a déjà été voté. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui? Comment est-ce que l'opposition peut-elle participer aujourd'hui à cette élection présidentielle si Patrice Talon ne prenait pas des dispositions pour qu'on mette peut-être entre parenthèses ce code électoral?
Mais ce n'est pas justement à M. Patrice Talon de le faire. Nous sommes normalement dans un pays de séparation de pouvoir. Le président de la République n'a rien à voir dans le processus électoral, normalement. Mais nous constatons que le président s'invite dans le processus électoral. C'est le président aujourd'hui qui vient promettre que des partis d'opposition iront à une élection présidentielle. Ça n'est pas du tout son rôle. Et lorsque vous dites que les textes ont été votés, je dis que les textes ont été votés, certes, mais ce sont les hommes qui font les textes. Ce sont les hommes qui font les lois. Et nous sommes dans une situation de blocage, visiblement. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques heures seulement, une décision supranationale est tombée. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a décidé justement de demander au Bénin de faire annuler la Constitution révisée dans les conditions que vous savez, et de faire annuler toutes les lois, dont la loi électorale. Donc rien de tout ça ne tient aujourd'hui. Et je crois que ce qui est à faire, c'est d'inviter la classe politique à un consensus pour que tout le monde, eh bien, tout le monde puisse participer à l'élection présidentielle. Ce n'est pas du tout le président de la République qui doit prendre son bâton de pèlerin pour faire ce type de promesse.
Quand vous dites que la classe politique doit se réunir pour discuter des nouvelles règles, cela signifie que il faut dissoudre le Parlement qui a été issu des élections contestées et qu'il faut remettre en cause aussi les résultats des élections communales. Parce que c'est ce Parlement-là qui a voté le nouveau code électoral à problème aujourd'hui.
Oui, mais vous avez dit élections contestées. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reconnu ce Parlement parce que nous estimons que c'est un Parlement illégitime et illégal. Mais dans quel pays démocratique voyez-vous que 83 députés, c'est-à-dire que l'ensemble du Parlement appartient aux deux partis du chef de l'État, un Parlement monocolore qui vote des lois nuitamment? Et donc, à partir de cet instant-là, nous n'avons aucune garantie d'une sincérité d'élection. Et vous savez, Madame la journaliste, je vais vous dire ceci. Le président Patrice Talon, depuis le début, a posé un postulat. Il avait déjà dit que, eh bien, quand on décide de renouveler son mandat, on ne tient pas compte des résultats. C'est-à-dire que on peut être mauvais à partir du moment où on n'a pas de compétiteur en face. Eh bien, on ne peut qu'être réélu. Et il suffit de tenir les grands électeurs.
Donc, pour vous, il ne fait aucun doute que le président Talon sera candidat à un second mandat.
Mais il n'y a pas de doute par rapport à ça. Il n'y a pas de doute. Sinon, pourquoi il est sur le terrain après 5 ans? Pourquoi il promet repartir sur le terrain dans 2 mois? Et donc, il a déjà planifié sa réélection. Et il a exclu l'opposition. Et si vous voulez, il veut choisir lui-même les opposants qui vont lui faire face en 2021. Et donc, nous ne sommes plus dans un jeu démocratique. Ça, c'est très clair pour nous. Donc, il n'y a pas de possibilité de penser à une élection dans des conditions pareilles. Il faut respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut faire tomber toutes ces lois. Il faut aller à un dialogue, il faut aller à un consensus avant toute élection. Pour nous,
Sébastien Adiavon, qui est arrivé troisième à l'élection présidentielle 2016 et qui avait appelé à voter Patrice Talon, sera-t-il candidat à la prochaine élection?
Mais tout est fait pour qu'il ne soit pas candidat.
Il le souhaite.
Mais c'est son droit absolu d'être candidat normalement. C'est son droit absolu. Mais vous savez que il y a un tribunal qui l'a condamné à 20 ans de prison de façon rocambolesque. Il est en exil et donc tout est fait pour qu'il ne puisse même pas rentrer au Bénin. Tout est fait pour qu'aucun document administratif officiel ne lui soit délivré par les autorités béninoises. Tout est fait donc pour qu'il ne soit pas candidat. À partir de cet instant, nous sommes à moins de 5 mois des élections. Vous comprenez que il y a manifestement exclusion de l'opposition de la course présidentielle. Ça, c'est très clair.
Et si jamais ce dialogue que vous souhaitez pour trouver un consensus qui permettrait des élections apaisées en avril prochain, si ce dialogue n'a pas lieu, qu'est-ce qui reste aujourd'hui à l'opposition béninoise pour pouvoir empêcher son absence à ce scrutin, pour pouvoir permettre à l'opposition de participer à l'élection?
Ben, l'opposition décidera en temps opportun. Pour le moment, l'opposition continue de demander au gouvernement du président Patrice Talon de respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce sont des décisions qui s'imposent à tous les États, puisque le Bénin lui-même est allé plaider à Arusha, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance tacite de la compétence de cette Cour. À partir de ce moment-là, il y a à respecter les décisions. Maintenant, si le gouvernement, comme à son habitude, s'entête à ne pas respecter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, je ne suis pas fondé ici à vous dire ce qui va se passer, mais bon, on avisera le moment venu, et puis on verra, c'est dans quelques mois seulement.
Et nous sommes désolés de ne pouvoir avoir jusqu'à présent M. Orden Ayadata, qui est député et président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, membre de l'Union progressiste, qui est de la majorité présidentielle. Nous espérons pouvoir l'entendre avant la fin de cette émission. Alors, je voudrais revenir à vous, M. Gandao. Vous êtes là? Allô, M. Gandao?
Oui, je suis là.
Alors, vous venez d'entendre tout à l'heure le représentant de Sébastien Aviavon qui souhaite qu'il y ait un dialogue, une concertation, c'est ce que M. Duncan Abalo disait, pour permettre un consensus, de discuter, un consensus pour avoir une élection apaisée en avril prochain. Est-ce que vous pensez que cela est possible à 5 mois de ce scrutin ?
qu'est-ce qui serait possible?
Ce dialogue souhaité par l'opposition?
Ça dépend de qui dialogue et de quoi on dialogue.
C'est autour des conditions d'organisation de cette élection et pour permettre à l'opposition de pouvoir y participer.
La condition majeure, tout à l'heure je vous disais que le citoyen attend des offres alternatives à la gouvernance Talon. Cette autre alternative peut venir de n'importe quelle personne, un candidat, personne physique. Notre condition prévoit une personne physique. Et donc, la formulation opposition, à ce qui nous embrouille dedans. Tout à l'heure, vous avez parlé de Yahya Boni. Yahya Boni, en 2006, a été porté par Talon. Talon, dès 2011, ils ont fait ensemble. Ainsi de suite, ils se connaissent depuis longtemps. L'autre dit que c'est son frère et son ami.
Vous voulez dire que la classe politique béninoise actuelle est disqualifiée?
En 2016, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, en fait, que pour autant que le débat de l'opposition, le débat de la politique au Bénin, tourne autour d'individus qui s'arrangent et se dérangent au sommet de l'État, nous, on est...
Pourriez-vous être plus clair, M. Gandaou?
À la société civile, nous discutons de ce qui est de notre droit en démocratie, le
d'accord.
Droit de choisir. C'est-à-dire, et c'est ça que nous défendons. Laissez-moi choisir d'un 21.
Mais donc vous...
de l'État permettre
la classe...
un projet de société alternatif à son projet s'il est candidat.
L'opposition ne fait-elle pas partie de n'a-t-elle pas la possibilité de proposer cette offre que vous souhaitez?
Je viens de vous dire que vous avez des partis qui sont en construction, par exemple, sur le cadre de l'opposition, mais qui n'existent pas légalement. Comment voudrez-vous, quand il y a des lois, qu'ils disent que c'est opposant? Vous avez des partis politiques qui sont reconnus légalement par la loi, qui disent de l'opposition, mais qui sont réfutés par la population, les fonctionnaires d'être du pouvoir. C'est un capanaum. C'est un côté dans lequel...
D'accord, vous l'avez longuement dit tout à l'heure.
C'est pourquoi notre discussion à nous, c'est notre débat à nous, c'est avoir notre droit citoyen de choisir en son
donc
temps.
Donc vous voulez dire qu'il n'est pas nécessaire de faire ce dialogue? Ce dialogue n'est pas nécessaire? Allô?
Allô? Oui?
Vous allez répondre sans doute après la pause, puisque vous ne m'avez pas entendu, Monsieur Gandaou. Et je vous rappelle que nous débattons ce soir des conditions d'organisation de l'élection présidentielle du 11 avril prochain au Bénin avec nos invités que nous retrouverons juste après cette petite pause.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et le débat politique de ce soir est consacré à la présidentielle qui se prépare au Bénin. Elle est prévue le 11 avril prochain avec nos invités. Donklam Abalo, porte-parole de l'USL de l'opposant Sébastien Adjavon en ligne de Cotonou. Et Ramel Gandaou, président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin. Et nous rappelons que nous n'avons pas pu joindre Orden Ayadata, qui est le député et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et membre de la majorité présidentielle. Avant la pause, vous étiez en train de vous exprimer, M. Gandaou, et je vous demandais est-ce que pour vous aujourd'hui le dialogue politique pour qu'on aille on parte aux élections présidentielles dans des conditions apaisées se justifie-t-il ou pas?
Peut-être s'expliquer. Mais se justifie. En réalité, le dialogue politique est tant souhaité par des acteurs. C'est pour ça que j'ai dit avec quels acteurs et sur quel objet. Voilà. Et tellement le contexte est complexe, avec, encore une fois, je vous le dis, de l'intérieur, avec des acteurs qui savent s'arranger dans le temps et se déranger dans le temps, qu'il est tellement complexe pour la société civile que je reprends dans ce débat d'articuler un agenda autour du dialogue politique entre ces acteurs. Mais ce que nous pouvons dire, qui pourrait arranger finalement tout le monde, et ce sur quoi nous, citoyens, c'est aussi que les garanties de pluralité d'offres politiques soient légalement données dès maintenant, à partir des promesses du chef de l'État, réitérées, et que de ces promesses, qu'on passe maintenant à la consolidation légale, et que les citoyens aient vraiment le choix de choisir parmi plusieurs propositions.
Et pas seulement les politiques.
Mais tout le monde, qui a fait gouverner le pouvoir d'État est forcément politique. Le pouvoir d'État est éminemment politique.
Mais en fait, il s'agit là, il y a en jeu là les droits civils et les droits politiques. Le citoyen que je suis, c'est-à-dire, et les deux sont indissociables. Le citoyen que je suis travaille fondamentalement pour mes droits en tant que citoyen.
Mais monsieur Gadao, dans vos propos en toile de fond, j'ai l'impression que vous êtes un peu désabusé, peut-être par les alliances politiques qui se font et se défont au Bénin.
Non seulement, je dirais plutôt que c'est mieux pour moi en tant que citoyen de rechercher la garantie de choix dans une pluralité, plutôt que, c'est-à-dire, d'avoir une formulation de doléances ou bien un agenda de plaidoyer et qui s'arrime à celui des politiques qui, en réalité, pour nous, si nous sommes dans le pire, sont responsables du pire, si nous sommes dans le meilleur, sont responsables du meilleur. Et donc voilà, l'un dans l'autre, le citoyen a la liberté de choisir. La Constitution a garanti que quiconque est candidat aux élections présidentielles au Bénin, et le citoyen doit avoir la liberté de choisir. En démocratie, la perspective d'alternance, d'offre d'alternance, est une nécessité pour tout dirigeant.
Merci,
le
monsieur Gandaou.
Le chef de l'État a été élu le 20 mars. Dans ces conditions, il en donnera les garanties légales à travers ses promesses.
Merci beaucoup. Je vais revenir à vous de l'opposition. Monsieur Abalo, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends parfaitement.
Comment réagissez-vous à la position de monsieur Gandaou sur le dialogue que vous souhaitez ?
La position de la société civile est compréhensible et je crois que M. Danaro, que je salue au passage, fait bien de dire que le citoyen doit bénéficier de ses droits civiques. C'est important, la liberté de choisir parmi une pluralité d'offres politiques. Et c'est ce que nous demandons au niveau de l'opposition. Nous demandons que le jeu soit ouvert, que tout le monde puisse avoir la possibilité.
Mais il semble aussi dire que les politiciens ne doivent pas être les seuls à pouvoir participer au processus. Et il ne le dit peut-être pas clairement, mais il abordait aussi en sourdine la question des alliances qui se nouent et se dénouent. Nous, je rappelle par exemple qu'en 2016, votre candidat avait soutenu Patrice Talon avant que la brouille n'intervienne entre les deux hommes.
Oui, c'est vrai. Mais tout ça, ça doit être légal. C'est la loi qui définit toutes les règles. Mais malheureusement, 2016, 2020, aujourd'hui, entre-temps, le Parlement qui est devenu à 100% celui du président Patrice Talon a modifié les règles de jeu. De telle sorte qu'aujourd'hui, les alliances ne se font plus légalement du point de vue politique. En fait, il faut remarquer que au Bénin, il n'y a pas une volonté manifeste d'ouvrir le jeu politique. Il n'y a pas une volonté manifeste d'ouvrir l'élection présidentielle de 2021. Mais de quoi a-t-on peur si, après 5 ans de gestion, on est sûr d'avoir bien géré, on est sûr d'avoir fait des résultats, si on est sûr d'être populaire, mais pourquoi alors empêcher l'opposition d'aller à la compétition ? C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre.
Et comment réagissez-vous en quelques mots à la tournée effectuée par Patrice Talon le mois dernier, et notamment son étape de Tchaourou, où il a dit avoir établi un chronogramme des urgences de cette localité d'origine de l'ancien président pour l'imposer à celui qui va lui succéder ? Il parle même de contrat qu'il va signer avec Tchaourou.
Non, mais écoutez, le président Patrice Talon sait très bien ce qu'il dit. Et vous allez constater qu'à chaque région parcourue, il a un discours spécifique. Donc, il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Il fait de la communication politique. Et ça, nous ne nous laissons pas du tout distraire par ça. Il faut voir ce qu'il a dit à Tchaourou et ce qu'il est venu dire chez lui dans la région du Sud. Mais c'est, vous comprenez qu'il fait de la politique. Pour nous, ce n'est pas le plus important. Un président qui attend 5 ans pour repartir vers les populations parce que l'imminence de l'élection est là. vous comprenez qu'il va sur le terrain juste pour se distraire. C'est comme ça que nous prenons ça. Mais les propos qu'il tient n'engagent que lui. Nous n'avons pas confiance en lui. Par ailleurs, il a déjà tenu des propos qu'il n'a pas respectés. Et donc, nous sommes prévenus par rapport à ça. Donc,
merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé, M. Donklam Abalo, porte-parole de l'USL de l'opposant Sébastien Adjavon. Merci à vous, Ralmel Gondao, de laissez-moi choisir. Dommage, nous n'avons pas pu avoir Orden Ayadata de la majorité présidentielle à ce débat. Merci de nous avoir suivis. À demain et nous parlerons du Cameroun avec les régionales de dimanche prochain.